Le psaume 107. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il les conduisit par le droit chemin, pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Amen. Voilà ce psaume qui résume l'état dans lequel ces hommes étaient, mais qui résume aussi l'état dans lequel nous étions autrefois avant de connaître le Seigneur. Si nous faisons une synthèse de ce psaume-là, ça nous montre tout simplement la détresse dans laquelle les êtres humains peuvent se trouver, et ils s'y trouvent bien souvent parce qu'ils se sont rebellés contre le Seigneur. Ils s'y trouvent parce qu'ils n'ont pas voulu obéir au Seigneur et ils n'ont pas voulu venir auprès de lui afin de recevoir la vie. Alors ils se retrouvent dans une situation à cause de leur péché, à cause de leur rébellion, mais la Bible nous dit, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les délivra de leur angoisse. Donc nous voyons vraiment la bonté de Dieu, même lorsque l'homme est dans la rébellion, même lorsque l'homme s'éloigne de lui, l'amour du Seigneur le rattrape lui-même. C'est comme si le Seigneur est quelque part contraint par son propre amour pour les humains d'intervenir, même lorsque ceux-ci se sont éloignés de lui. Il se sent obligé de venir à l'aide des humains parce qu'il les aime. Lorsque nous lisons le livre des Juges et que nous voyons l'histoire entre Israël et Dieu, c'est ce qui se passait. Le Seigneur sauvait son peuple et peu de temps après le peuple allait vers d'autres faux dieux, se prosternait d'être faux dieux. Et le Seigneur, dans sa colère, envoyait des peuples pour faire la guerre à Israël, pour prendre leur bétail, pour prendre toute leur récolte, et le peuple souffrait. Et lorsqu'il souffrait, il criait à Dieu, et Dieu, dans sa compassion, envoyait un libérateur pour qu'il aille encore les sauver. Et ça n'a fait que se répéter. Donc cet enchaînement montre tout simplement la rébellion dans laquelle l'homme demeure continuellement, qui oublie les bienfaits de Dieu et se détourne du Seigneur. Mais cet enchaînement nous montre aussi que même si le Seigneur a proclamé un jugement, il revient toujours sur son jugement pour sauver les humains parce qu'il les aime. Et c'est ce qui s'est passé. Dans ce naufrage-là, il y en avait peut-être un seul qui connaissait le Seigneur. Mais le Seigneur pouvait permettre aussi qu'il meure là, puisque dans tous les cas, il n'était pas dévoué pour le Seigneur. Mais l'amour de Dieu l'a rattrapé lui-même pour sauver ses humains. Et c'est ce qui se passe avec nous, même à une petite échelle. Lorsque nous commettons un péché, eh bien, le Seigneur nous pardonne toujours. Nous tombons, nous revenons au Seigneur, il nous pardonne toujours, parce que c'est son amour qui est comme ça. Mais ça veut dire aussi que aussi grand est l'amour du Seigneur. J'écoutais une exhortation ce matin ou hier soir, et puis ce prédicateur américain disait, il avait une rencontre avec des étudiants à qui il devait annoncer la parole, et il ne savait pas trop comment faire pour ne pas entrer dans une forme de débat ou pour ne pas leur faire peur. Alors le Seigneur l'a inspiré et il dit aux étudiants, « J'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer au sujet de Dieu. » Et il n'a fait que répéter ça et les gens ouvraient les yeux, attendaient, « Mais quelle est la mauvaise nouvelle ?» Il dit, « J'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer au sujet de Dieu. » Alors il leur dit, « La mauvaise nouvelle, c'est que Dieu est bon. » Et les gens se sont mis à rigoler. Mais ça, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Si Dieu est bon, tant mieux pour nous. Mais c'est pour dire que puisqu'il est bon, il doit aussi juger. C'est ça la réalité. Puisqu'il est bon, sa bonté, c'est qu'il juge aussi. On ne va pas dire qu'un juge est bon alors qu'il libère les méchants. Ah non, un juge qui est bon, c'est un juge qui rendra justice. Et Dieu, puisqu'il est bon, il rendra aussi justice un jour. Mais nous sommes dans le temps de la grâce. Et c'est ce que nous voyons à travers nos bien-aimés qui ont été sauvés. Ils ont bénéficié de cette grâce-là. D'où le psaume 107 que j'ai voulu que l'on lise. Un point que j'ai soulevé dans le passage que nous avons lu, à un moment donné, le Seigneur dit parce qu'ils ont méprisé le conseil du Très-Haut. Donc, ils ont méprisé en quelque sorte les avertissements de Dieu. Ils ont méprisé la parole du Seigneur. Ils en ont fait à leur tête en pensant qu'ils étaient capables de faire. Et ces personnes-là se retrouvent à la pêche. Un autre bateau arrive pour leur dire « Attention, la tempête arrive. » Qu'est-ce qui les empêchait de rentrer avec les autres? Je ne sais pas si c'était pour eux un commerce ou bien un loisir, mais en tout cas, pris par leur activité, ils ont décidé de rester encore et de se dire quelque part, on maîtrise le temps. Ça veut dire que non, on le verra venir, on aura le temps de partir, on aura le temps de faire ce qu'il faut. Puisque s'ils n'ont pas eu peur, c'est qu'ils ont eu confiance en leur bateau, ils ont eu confiance à leur expérience en se disant que non, on sait gérer ces choses-là. Ceux qui avaient averti que la tempête arrivait, ils sont partis. Mais eux sont restés. Et c'est comme ça que l'homme est. C'est pourquoi le Seigneur nous dit dans 1 Corinthiens 10, 12 que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Non, on ne peut pas marcher avec notre propre assurance. Notre assurance doit se trouver dans le fait que Dieu nous protège. Mais pas que nous sommes intelligents. Pas que je maîtrise la route, je maîtrise bien ce chemin. Voilà, je maîtrise bien telle chose ou telle chose, j'ai l'habitude de faire. Et là, on est dans cette habitude-là de maîtriser les choses, entre guillemets, et un jour, on risque d'être surpris. Ils ont été surpris par ce qui s'est passé. Ils ne pensaient pas que les choses arriveraient ainsi, mais dans leur assurance, finalement, ils se sont totalement trompés. Donc, apprenons vraiment à faire confiance au Seigneur. Ne marchons pas avec l'assurance que tu es bien assuré, que tu as assez d'argent, que tu es assez intelligent, que tu connais telle chose par cœur. On ne maîtrise rien du tout. Et ça, c'est une belle preuve que nous venons de voir là, des gens qui étaient certainement aguerris en ce qui concerne, conduire le bateau, en ce qui concerne la pêche. Ils connaissaient, mais ils n'ont pas tenu compte de l'avertissement. Oui.
Par rapport au témoignage, bon, on n'a pas beaucoup d'explications, mais dans la prière qu'il fait, on voit qu'il... Il manifeste une certaine foi vis-à-vis de la situation. Et il reste quand même 36 heures dans l'eau. Donc, entre le moment où il a prié et le moment où les secours arrivent, il se passe quand même un certain temps. Et vis-à-vis des personnes païennes qui étaient autour de lui, moi, je trouve que c'est vraiment... il a manifesté une grande foi parce qu'il aurait pu... laisser tomber ou peut-être que, comme il disait l'autre païen qui a accepté le Seigneur à ce moment-là, aurait pu peut-être aussi se rebeller en disant, voilà, tu en as prié tout à l'heure, ton Dieu n'a rien fait, parce qu'il s'est quand même passé 36 heures, c'est beaucoup avec les requins en plus autour. Je trouve qu'il y a eu une manifestation de la foi de cet homme-là et du courage qui me laisse...
Est-ce qu'on peut dire vraiment qu'il a manifesté une grande foi? Ou bien ce n'est pas la détresse, comme il dit, je n'avais dit à personne où on était, personne ne savait où on était. Donc le seul recours qui restait, c'était Dieu.
Il aurait pu, il aurait pu se rebeller aussi.
Oui, il a manifesté une forme de foi. Maintenant, est-ce qu'on peut parler vraiment de la foi telle? Parce qu'il a donné l'exemple de Daniel, il a donné l'exemple des amis de Daniel. Eux sont entrés et ils étaient en paix. Lui n'était pas en paix, hein?
Non.
La foi t'amène dans une attitude de paix. Maintenant, il y a la foi dans la détresse, mais parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Comme le voleur à la croix, il a eu aussi à un moment donné la foi, mais de toutes les manières, la route s'arrêtait là pour lui. Donc, autant avoir la foi au moment où je meurs, je vais au Seigneur. Maintenant, dire que vraiment il a manifesté la foi, il n'avait pas vraiment l'air en paix, hein.
Ben, qu'est-ce que c'est là? Parce qu'il s'est passé quand même 36 heures.
Oui,
il
mais aurait c'est, pu, c'est une foi de dernier recours. C'est une foi de dernier recours.
D'accord.
On ne peut pas nier qu'il a eu la foi. Bon, est-ce qu'il s'est souvenu? Bon, je, c'est difficile à dire parce que je ne suis pas dans son cœur, mais je me dis quand même qu'il n'était pas vraiment en paix. Mais je ne nie pas en même temps le fait que oui, il a manifesté la foi. La foi de prier pour que Dieu... Parce que non, je ne sais même pas si c'est la foi. Je pense que c'était quand même mélangé avec la peur. Parce qu'il a prié et il a dit, bon, j'ai demandé aussi en même temps si Dieu pouvait nous sauver. Il a dit quelque chose comme ça. Vous vous en souvenez pas? Il a dit quelque chose comme ça. Voilà, donc tu vois quand même que c'était une foi. Bon, je jette toutes les armes, quoi. Il n'y a pas d'homme, il n'y a plus rien. Bon, là, vraiment, Dieu, si tu existes, fais quelque chose, quoi.
Et qu'est-ce qui fait alors que l'autre soit... accepte le Seigneur, c'est ce qu'il se dit à la guerre comme à la guerre ou est-ce qu'il se... Parce que il dit que son ami païen à côté se convertit, si j'ai bien tout suivi.
En tout cas, je ne sais pas. Il dit que son ami a confessé le Seigneur ce jour-là, mais bon, la suite de la vie, on ne l'a pas pour savoir est-ce qu'il a vraiment marché. On aurait bien voulu aussi que les amis témoignent, mais ils ne l'ont pas témoigné. Donc bon, je ne sais pas. Bon, en tout cas, il a dit qu'il a accepté. Donc, on se limite à ça. On se limite à ça.
Oui, pour moi, cette histoire... Pour moi, cette histoire, c'est plus la manifestation du contrôle absolu de Dieu, parce que déjà, je n'arrive pas à croire qu'ils aient pu tenir si longtemps et pas mourir. Donc, je pense vraiment que le Seigneur les a soutenus. Et puis, je n'arrive pas à croire non plus que les requins n'avaient pas faim. Quoi. Donc, c'est vraiment... Ils voulaient vraiment les sauver, quoi. Et pour le deuxième qui a donné son cœur à Jésus,
d'accord, quand ça reviendra dans Amen, on dit Amen, ça montre vraiment que le Seigneur maîtrise toutes choses, quoi. Il maîtrise vraiment la création. Mais certains diront, oui, mais là, dernièrement encore, à l'île de la Réunion, là, on vient de tuer un homme par un requin, là. Là-bas, c'est des habitudes. Donc... Certains diront, oui, mais il y a d'autres aussi là-bas, pourquoi Dieu n'a rien fait? Mais Dieu est souverain, voilà, ça n'empêche pas que c'est lui quand même qui maîtrise toutes choses.
Pasteur, en même temps, moi, ce qui me touche et tout, c'est en fait, il s'abandonne en fait totalement au Seigneur, dans le sens où, même quand il prie, en fait, il ne sait pas quel est son sort. S'il va être sauvé, s'il va être mangé par le requin, ou s'il va mourir... Mais il demande quand même, quel que soit le sort, en fait, que, disons, s'il meurt, qu'il soit auprès du Seigneur. Donc, on voit quand même que, peut-être qu'il ne dit pas, oui, Seigneur, sauve-nous, juste, en fait, il ne sait pas. Donc, ça montre aussi, peut-être qu'il s'en tient aussi à la souveraineté de Dieu.
Oui, en tout cas, le Seigneur peut nous amener dans des situations, comme on a eu ceux qui ont reçu l'exhortation de ce matin, au moment lorsqu'il y a eu une grande famine en Israël. Les gens commençaient certains manger leurs enfants. Et il se passe qu'il y a une dame, une femme qui était là et qui voit le roi passer et qui dit au roi, sauve-nous. Et le roi va répondre, ah, là où l'Éternel n'est pas intervenu, tu veux que moi j'intervienne en quelque sorte. Donc là, c'est pour dire, c'est une question, il n'y a que Dieu seul. Donc il y a des événements, c'est vrai que le Seigneur peut permettre dans la vie de certains hommes où ni la science, ni le médecin, ni le pasteur, ni personne ne pourra rien faire pour toi si ce n'est l'intervention de Dieu seul. Donc le Seigneur peut nous amener à des niveaux où il nous enlève toutes nos attaches, toutes nos béquilles, toute notre sécurité. Il nous dépouille de tout afin qu'on apprenne que notre vie dépend du Seigneur seul, quoi. Et ces hommes-là se sont retrouvés dans cette condition où, ben, à ce moment-là, à part Dieu, qui pouvait faire quelque chose? Il n'y avait que le Seigneur lui seul.
Moi, j'ai été surtout touchée par l'amour de Dieu, parce que dans le témoignage qu'il rendait, il y a une partie où il a dit qu'il s'est repenti, il a demandé pardon pour ses péchés. Dans des moments de stress, de détresse, on n'est pas toujours conscient de ce qu'on fait. Et si on se tient à la procédure qu'il a utilisée, on voit que quelque part, il reconnaissait qu'il n'était pas parfait, il reconnaissait qu'il n'était pas forcément dans le droit de demander quoi que ce soit à Dieu. Donc c'est l'humilité et aussi l'amour de Dieu qui m'a vraiment frappé dans ce témoignage.
Amen. Il a dit, je suis indigne du Seigneur. Voilà, je suis indigne. Il dit, mais plus que le Seigneur m'aime, ben, voilà. Autant profiter de l'amour du Seigneur. Et c'est vrai qu'il n'y a pas un être humain qui mérite son salut. C'est vraiment la grâce de Dieu. Et on méritait tous la mort. Donc c'est vraiment, rien qu'en pensant à ça, c'est vraiment un sujet sur lequel ben, on devrait se réjouir tous les jours, quoi, d'être sauvé. Vraiment, on a vraiment une raison pour laquelle on pourrait chaque jour célébrer notre Pâques, le Seigneur. Toujours dans la même logique, dans 1 Corinthiens 10, 12, ils n'ont pas tenu compte de l'avertissement. Et quand le bateau a commencé à être inondé, il dit qu'ils avaient oublié, il y a un bouchon, je ne sais pas si quelqu'un connaît ce terme-là, mais il a parlé d'un bouchon qu'ils doivent mettre avant de naviguer. Et ce bouchon-là, ils l'avaient oublié, tout simplement. Et c'est ce qui a fait que le bateau a commencé à prendre l'eau et qui a favorisé justement le naufrage. Et là, on voit tout simplement que les humains aussi, toujours dans l'habitude de maîtriser les choses, ne respectent plus spécialement les procédures. On est tellement habitué à faire les choses qu'on survole certaines choses et on passe à côté de ce qui est important. Un exemple tout simplement, il y a des gens qui ont l'habitude de faire toujours le même gâteau. Et à force de faire toujours le même gâteau, ils n'utilisent plus spécialement le verre pour mesurer, pour peser, il fait. Et à un moment donné, ils se rendent compte, ah, j'ai oublié la levure, le gâteau a une forme un peu, je ne sais pas, comme un gâteau qui ne vient pas de la terre, quoi. Donc, une forme bizarre. Pourquoi ? Parce que l'habitude de tellement faire les choses emmène l'homme dans une forme d'assurance qui ne peut plus se tromper. Et ça, c'est très, très dangereux. On doit être humble. Reconnaître que c'est possible qu'on passe à côté de choses, donc d'être sérieux dans ce que l'on fait. D'être sérieux dans ce que l'on fait. Donc il y a des procédures, quand elles sont là, que ce soit pour la gestion dans l'œuvre de Dieu, que ce soit pour le travail que ton patron te confie, même si ce sont des choses que l'on maîtrise, c'est important de tenir compte des procédures. Voilà que un simple bouchon, c'est peut-être pas, je dirais, l'élément le plus important du bateau, mais cet élément qui est peut-être apparemment pas le plus important, qui est certainement petit, eh bien, ils l'ont oublié et ça a failli leur coûter la vie. Donc c'est important vraiment d'être sérieux dans ce que l'on fait, de respecter les choses telles qu'elles sont établies et de ne pas survoler en se disant que je n'ai pas besoin, je passe directement au deuxième niveau parce que bon, le premier niveau, j'ai l'habitude de faire, je maîtrise, ça va passer. Là, ça peut nous faire des surprises. Okay.